France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Retrouvons aujourd'hui la suite des souvenirs du pianiste et compositeur Jean Wiener. Souvenirs qu'il avait confiés au micro de Micheline Banzer en 1957. Il nous raconte aujourd'hui le Paris de l'après-guerre de 1914 et, comme il le dit, l'extraordinaire feu d'artifice qu'a été cette période pour la création musicale. Éric Satie, Cole Porter, Francis Poulenc, Igor Stravinsky, Duke Ellington, George Auric, ils sont tous là, gravés dans la mémoire de Jean Wiener.
Jean Wiener, hier nous nous sommes séparés. Juste avant la guerre de 1914, quand vous aviez déjà rencontré Millau, vous aviez entendu les premières œuvres de Stravinsky. Après la guerre, vous avez retrouvé Paris, assez changé, mais de nouveau les mêmes musiciens et surtout le retour de Diaghilev, je crois.
C'est cela. Et alors cet énorme feu d'artifice, je répète ce mot parce que je n'en connais pas d'autre, qu'a été cette époque-là, car alors on a eu non seulement l'épanouissement des six sous l'impulsion de Jean Cocteau, mais on a entendu des merveilles de quadro flamenco qu'on ignorait, qui ont été confirmées par Manuel de Falla. Et puis, ce qui a été très 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 important à cette époque, on a eu vraiment notion de ce qu'a été l'apport négro-américain avec les premiers artistes noirs surtout qui sont venus, soit Josephine Baker qui est venue avec sa troupe, puis un peu plus tard Florence Mills, puis l'orchestre de Paul Whiteman qui est venu et avec lequel on a joué la Rhapsodie en bleu, c'est-à-dire l'apparition de Gershwin, non seulement musicien de charmantes chansons que nous commencions à connaître, dont certaines étaient même d'avant la guerre, comme Smiles et des choses comme ça. Et alors, on le voyait sous la forme d'un musicien presque symphonique. J'aime pas beaucoup le mot, mais enfin, si vous voulez, des développements qui dépassaient quand même la chansonnette, la merveilleuse chansonnette américaine, qui, à mon sens, d'ailleurs, est le véritable chef-d'œuvre de Gershwin. Mais je crois que la chanson, c'est-à-dire cette musique qui, comme disait, je ne me rappelle plus quel illustre confrère, est agréable parce qu'on peut l'emporter avec soi et la mettre dans sa poche, n'est-ce pas, a beaucoup, beaucoup aidé à développer l'amour de la musique et à faire aimer les grandes musiques après, les grandes œuvres.
Mais alors là, vous me faites penser, évidemment, que c'est presque une condamnation de la musique de décaphonique, ce que vous dites, parce que voilà la musique qu'on ne peut pas emporter dans sa poche. Se retenir à un air de musique de décaphonique, je crois
non,
que c'est
il
presque
a pas moyen.
Mais alors, je crois qu'à l'opposé de ces recherches vraiment de laboratoire, on pourrait parler d'un autre musicien que vous avez très bien connu et qui me semble être exactement l'opposé, c'est Satie, qui est le triomphe de la simplicité et de la clarté.
Absolument, absolument. Tellement simple et tellement clair que on l'a considéré pendant très longtemps, et il y a encore beaucoup de gens qui le considèrent, que c'était un fumiste, parce que il faisait de la musique tellement accessible, tellement simple, et alors comme c'était un personnage très étonnant, très drôle et très très esprit d'onfleur, il mettait dans ses partitions des nuances tellement drôles, avec des remarques tellement inattendues, que pendant très longtemps, le public s'est imaginé que c'était simplement un rigolo, alors que c'est un très grand musicien qui a laissé des histoires comme Socrate, par exemple, qui sont, enfin, pour moi, un très très grand chef-d'œuvre, et que sa manière tellement pure est la manière d'un très grand musicien.
Bien, je crois que Diaghilev, d'ailleurs, qui avait le goût suffisamment sûr, il l'a prouvé, avait su découvrir Satie, puisqu'il avait inscrit au programme et monté au programme des ballets russes Parade.
Ben, je pense bien qu'il a été un événement.
Ben, nous aurions peut-être pu écouter, puisque nous parlions de Satie, un fragment de Parade d'abord.
Ah oui.
En pensant à toute cette époque extraordinaire que malheureusement je n'ai pas connue et beaucoup d'auditeurs qui sont en ce moment à l'écoute n'ont pas pu connaître non plus. Alors voilà ce fragment de Parade qui a été enregistré par Markevitch dans un hommage à Diaghilev où il y a les principaux ballets du répertoire de Diaghilev.
Thank you.
Jean Vienner, que vous aviez entendu Parade et tous les grands ballets de Diaghilev, mais je crois que, à peu près à cette époque ou un peu plus tard, vous avez eu également l'occasion de fréquenter ces salons dont on nous a beaucoup parlé, où on a fait énormément de bonne musique quand même.
Ah, je pense bien, à ce moment-là, on avait, et on en a malheureusement encore un petit peu besoin dans nos pays, mais enfin, on avait surtout, à cette époque-là, très besoin des mécènes, surtout quand ces mécènes avaient fait bon goût. Parce que le côté assez affreux des mécènes, en dehors de bien d'autres considérations, qui peuvent avoir aussi pas très bon goût. Mais nous avions ici un certain nombre de mécènes, et particulièrement une dame dont je parlerai aussi longtemps que je vivrai, qui a vraiment fait pour les musiciens des choses merveilleuses, et qui avait un goût extrême, c'était Madame de Polignac, Winnie comme on l'appelait, et qui était une grande dame américaine, et qui vraiment a commandé à des musiciens leurs plus belles choses, avait des concerts chez elle, où elle avait une avenue Henri Martin, une magnifique salle de concert, et où, je me rappellerai toujours, elle avait un grand fauteuil, ça doit être quelque chose, je ne suis pas très ferré, mais enfin, ça doit être quelque chose comme Henri II, ou quelque chose comme ça, ou Henri III, vous savez, avec des dossiers énormément hauts, comme ça. Alors elle était très tranquille, elle était tout à fait comme un général, très loin devant ses troupes, ça, dans ce fauteuil, absolument isolée. Et derrière, il y avait tout le gratin, enfin tout le beau monde de Paris, parmi lesquels il y avait de très grandes célébrités, de très grands acteurs, et puis aussi des gens qui ne vraiment n'avaient rien à voir là-dedans, si ce n'est que leur rang mondain avait fait qu'on leur avait envoyé un carton et que s'ils n'avaient rien de mieux à faire, ils étaient venus.
Alors c'était très élégant et comme car et comme toilette.
Ah, c'était d'une richesse, c'était d'une richesse terrible. Mais alors la princesse était magnifique parce qu'elle ne se préoccupait absolument de personne. Elle se faisait elle écoutait son petit concert qu'elle s'était offert, après s'être offert en général l'œuvre qui lui était dédiée et qui était éditée grâce à elle, etc. Et vraiment, enfin, c'est chez elle qu'on a entendu pour la première fois le retable de Maître Pierre de Faya, Mavra de Stravinsky, et des tas de choses de Millot, enfin de tout le monde.
C'est et alors vous-même, vous avez joué là-bas très souvent, naturellement,
moi, j'ai
vos
joué
propres œuvres.
J'ai joué avec Igor à deux pianos son concerto qu'elle lui avait commandé, son concerto de piano. Oui. J'ai joué moi-même un petit concerto franco-américain que j'avais donné chez Padlou à cette époque-là, qui était un petit mélange de musique classique et de rythme négro-américain. Enfin, vraiment, chez Madame de Polignac, on a entendu des musiques absolument admirables, dans un cadre, évidemment, qu'on regrettait un peu, en ce sens que c'était limité à certains mondes qui gâchaient, parce que, voilà, c'est une époque à la fois merveilleuse et effrayante, en ce sens que c'était un gâchis de génie et de choses merveilleuses, et une mauvaise distribution de ces choses merveilleuses, parce que ça ne dépassait pas ce palais, n'est-ce pas ?
Une cinquantaine de personnes.
Non, il y avait tout de même plus que ça. Mais vraiment, à l'époque, on peut dire que toutes ces beautés étaient distribuées au grand maximum à 12 ou 1500 personnes.
Et vous avez joué là, entre autres, les gymnopédies, je crois, de Satie.
Ah oui, au
fond. Vous auriez accepté de nous en jouer une ce soir, comme vous l'avez joué à ce moment-là ?
C'est une des choses que je préfère.
Vous me disiez, Jean Viener, que vous aviez joué ces gymnopédies de Satie chez Madame de Polignac dans un ravissant salon entre les deux guerres. Et c'est à cette époque-là, si ça ne vous ennuyait pas trop, en un bref raccourci, nous aurions peut-être pu entendre quelques fragments de toutes ces œuvres qui ont défilé chez Madame de Polignac. Vous parliez de l'octuaire de Stravinsky,
Ah oui, ça c'est une des grandes choses de cette époque-là.
Et on pourrait l'entendre en essayant d'imaginer la pression ressentie par ce public extrêmement élégant en entendant une pareille œuvre.
Oui.
L'acteur de Stravinsky, vous nous disiez, Jean Vienner, qu'il avait été joué dans un cadre très élégant chez Madame de Polignac. À cette époque, il y avait également le jeune Auric, je pense, qu'on devait voir tourner un peu par là.
Ah oui, je pense bien, qui était toujours le musicien intelligent, s'il en fut jamais.
Et un homme aussi très intelligent, spirituel.
Ah, je pense bien, très 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 intelligent. Et qui commençait déjà à écrire les beaux ballets qu'il a fait pour... Diaghilev, moi je me rappelle toujours ce merveilleux ballet, Les Fâcheux. C'était son premier grand ballet que je me rappelle, qui était vraiment une très très belle musique.
C'est fort dommage d'ailleurs, car ni Les Fâcheux ni Les Matelots ne sont enregistrés en disque micro-sillon, du moins on ne les trouve pas en France, car Les Matelots on les trouve aux États-Unis. Donc nous ne pouvons pas les passer ici à la modulation de fréquence. Comme vous savez, nous sommes limités à un choix assez sévère et on nous refuserait un vieux disque 78 tours. Mais si ça ne vous ennuyait pas, nous aurions peut-être pu entendre une autre page d'Auric que vous avez dû entendre à peu près à ce moment-là. Vous l'avez même peut-être joué, c'est la sonatine.
Ah oui, j'ai joué en première audition à un de mes concerts, la sonatine d'Auric, c'est exact, mais je ne l'ai pas non plus enregistrée.
Alors ça ne sera malheureusement pas vous, mais voilà quand même la sonatine d'Auric, ou du moins un fragment de la sonatine d'Auric.
Thank you.
nous disiez, Jean Viennaire, que vous avez joué vous-même cette sonatine d'Auric à la même époque entre les deux guerres. Vous avez certainement rencontré Poulenc, qui était alors le triomphateur des biches, je pense.
Oui, surtout. Je pense bien. Nous nous voyons toujours beaucoup grâce à Jean Cocteau. Nous avions des réunions assez régulières et on peut dire que quand on voyait Auric, on voyait Poulenc, et quand on voyait Poulenc, on voyait aussi Darius, et après ça, on voyait aussi Arthur Honegger, et on voyait Germaine Taillefer, et on voyait Duret, et après on voyait Satie. Il y avait les grands amis de l'époque, il y avait Marcel Meyer qui était toujours là et qui jouait merveilleusement bien d'ailleurs les choses de tout le monde.
Et elle joue encore merveilleusement
bien encore
toute
admirablement,
la
musique je pense bien.
De cette époque-là. Eh bien, de Poulenc, l'œuvre à ce moment-là la plus spectaculaire, c'était donc Les Biches. Nous pourrions en écouter un très bref extrait.
C'est une très bonne idée.
Elle est très connue maintenant, c'est toujours les décors de Marie Laurencin dont on se souvient en l'écoutant. Alors voilà donc un fragment des Biches. Jean Viennaire, nous avons pu évoquer un petit peu avec vous Auric, Poulenc, toute cette période, mais vous nous aviez également dit qu'à cette époque, c'était le grand essor de la musique noire. Est-ce que chez Madame de Polignac et dans les salons, on a également donné de la musique noire ou pas du tout alors quand même?
Je ne me souviens pas qu'on ait donné chez la princesse véritablement de la musique négro-américaine, encore que je suis tout à fait certain qu'à l'époque, par exemple, Cole Porter, qui est encore un très grand auteur de musique légère, si on peut dire, de musique américaine, Cole Porter venait là, et je me rappelle très bien qu'il a joué lui-même et qu'on a joué des choses de lui chez la princesse. Je pense que Gershwin, quand il venait, a dû aussi aller chez elle, puisqu'elle était américaine et que certainement elle a reçu tous ces musiciens-là. Mais alors c'était probablement un autre département. Je me rappelle moins ça chez elle, alors qu'au contraire, dans certains de mes concerts, alors j'avais introduit des bandes d'Américains entre de la musique de Mozart et de la musique de Bartok ou de Stravinsky.
Le grand personnage à ce moment-là, vous me disiez, ça a été Duke Ellington quand même,
qui vous
a beaucoup frappé.
C'était Duke Ellington qui était la suite, si je peux dire, de Paul Whiteman, qui alors était venu un des tout premiers immédiatement après la guerre. Alors.
J'ai pu avoir ici un blues dont vous m'aviez parlé, je crois, l'autre jour, à propos de Duke Ellington, qui est Mood Indigo. On aurait pu l'écouter à ce moment-là.
Manière de chef-d'œuvre.
Alors voici ce chef-d'œuvre que vous avez découvert, on peut dire, vraiment, bien avant la dernière guerre. Jean Viennaire, vous nous disiez que cette musique négro-américaine avait été vraiment un très grand choc, qui avait eu une grande influence avant la guerre. Je crois que vous-même avez écrit à ce moment-là une sonatine plus ou moins influencée par la musique syncopée, par la musique négro-américaine.
Oui, c'est mon ami Yves Natt qui, quand il est revenu de son premier voyage d'Amérique, qui datait de tout de suite avant la guerre, nous revenons un petit peu en arrière, m'avait raconté qu'il avait entendu des espèces de petits morceaux assez étonnants que les Américains appelaient des ragtime, et il en avait même écrit quelques petites mesures sur un dos d'enveloppe, je me rappelle toujours, qu'il m'avait montré. Et de cette minute-là, je dois dire que la musique négro-américaine m'avait un peu aplati le dessus de la tête, et que j'en ai été influencé toute ma vie. C'est le côté humain de cette musique qui m'est apparu tout de suite comme d'une très 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 grande importance. On avait l'impression que c'était la musique de chacun, que c'était la musique de son cœur, la musique de sa marche, la musique de ses matins, de ses soirs et de ses amours. Et c'est une musique absolument naturelle. Et je crois que effectivement le grand apport du siècle, c'est l'apport négro-américain.
Est-ce que ça ne vous ennuierait pas trop de nous jouer un fragment de la sonatine que vous avez écrit à ce moment-là sous
non,
l'influence
ça ne m'ennuie pas du tout, encore que, à mon avis, c'est tout de même déjà un peu démodé.
Merci Jean Viennaire d'avoir bien voulu nous jouer ce fragment de votre sonatine syncopée, la sonatine que vous écriviez un peu sous l'influence du jazz noir, bien avant la dernière guerre. À ce moment-là, je crois qu'en effet, vous me disiez, Millau, Stravinsky, tous ont plus ou moins écrit sous cette influence du jazz, des œuvres plus ou moins syncopées, des blues. Et même, je crois que le tour harmonique de la musique négro-américaine a eu une certaine influence sur tous ces compositeurs-là en même temps.
Énormément, une énorme influence.
À ce moment-là, c'était également le Bœuf sur le Toit. Doucet est venu vous rejoindre et vous avez commencé cette série.
Voilà, et alors après ça, le Bœuf s'est agrandi et moi j'avais pris de plus en plus l'horreur de ce genre de nuit. Et alors, Doucet, qui était plus accessible à tout ça et qui ne buvait pas que de l'eau de Vichy, Doucet a fait les beaux jours du nouveau Bœuf sur le Toit, car c'était un admirable pianiste. Et après ça, on ne l'a plus beaucoup vu, car on commençait alors nos 2000 concerts qui ont duré beaucoup d'années. Et alors, il venait, lui, de temps en temps, et quelquefois même, nous jouions à deux pianos entre deux tournées. Mais enfin, ça a été très espacé.
2000 concerts, c'est prodigieux. Et qu'est-ce que vous jouiez surtout, tous les deux, alors, à ce moment-là, ensemble ?
Eh bien, ce qui avait fait notre succès à l'époque, c'était le résultat de ce goût, ou plus exactement La preuve du goût que j'avais pour ce que j'ai appelé la salade, c'est-à-dire toutes les musiques, si elles sont bonnes, nous avons récolté un peu tous les publics parce que nos concerts commençaient toujours par la sonate à deux pianos de Mozart ou par un concerto de Bach à deux pianos et puis se terminaient par tous les nouveaux Schlager, comme on dit en allemand. C'est-à-dire les succès négro-américains, les grands tangos de l'époque, n'est-ce pas, que nous avions transcrits assez transcendantalement pour nos deux pianos, et alors ce qui faisait que nous avions à la fois le public des philharmoniques et le public des jeunes qui venaient pour entendre les nouveaux Gershwin et les nouveaux Cole Porter.
Et ce principe de programmation, c'est aussi celui que vous avez mis en pratique avec tant de succès dans les concerts viennois dont nous parlerons demain, où vous avez panaché énormément. Demain, si vous le voulez bien, nous essayerons de faire une rétrospective et un espèce de concert viennois en disque en mélangeant Bach, la musique noire, Schoenberg et Webern et Puccini, enfin tout ce que vous avez pu donner à ce moment-là. Et pour en avoir un petit avant-goût ce soir, ce ne sera pas la salade, mais nous aurions peut-être pu nous quitter en écoutant un fragment d'un chef-d'œuvre, c'est Socrate de Satie que vous avez donné à vos concerts et je crois que c'est une de vos œuvres préférées.
Oh, absolument.
Alors nous quitterons ce soir en écoutant un fragment de Socrate de Satie.
Sur tout dans cette saison et à cette heure. car c'est là que plusieurs transportent la Seine. Et à propos, n'est-ce point là cette âme qui nous conduit? C'est lui-même.
Un extrait de Socrate d'Éric Satie, cher au cœur de Jean Wiener, avec les voix d'Andrea Guyot et André Esposito. L'orchestre de Paris était dirigé par Pierre Dervaux. Nous retrouverons Jean Wiener demain pour le dernier opus de l'émission de Micheline Banzet, Trois jours avec, enregistré en 1957. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation, avec Adeline Omello à la prise de son, en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.